Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens. Hélène Denis qui vous accompagne en ce 29 mai 2018. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Quelle belle journée d'été.
Quelle fantastique journée.
Et ça sent le lilas, le muguet. Bref, si les gens sont pas de bonne humeur, je sais pas ce que ça leur prend.
Ah, mais c'est une journée pour aller faire un tour dehors, mettre le bout du nez, aller profiter de la nature, si les allergies ne vous accablent pas trop.
Non. J'espère qu'il n'y a personne d'allergique qui nous écoute, malgré que c'est un fléau. J'en connais pas mal autour de moi.
Je saute tout de suite dans les éphémérides. Dans ce 29 mai, nous sommes la journée internationale des casques bleus, comme on appelle aussi en anglais les peacekeepers, les gardiens de la paix. Donc, cette unité d'armée qui sert à rétablir, à maintenir la paix dans les zones de conflit. Donc, tous ces hommes et ces femmes qui dévouent leur vie pour le soutien de la paix, on vous salue. Autre événement marquant, en 1431, place du marché à Rouen, Jeanne d'Arc est brûlée vive. 1453, Constantinople, l'ancienne Byzance, est prise par 12 000 janissaires turcs. Ce ne sont pas des mots que je prononce à tous les jours.
Non, moi non plus.
Et rebaptise ainsi Constantinople en Istanbul. Et chose que j'apprends aujourd'hui même, cet événement, donc la prise de Constantinople, marque la fin du Moyen-Âge. Donc, 29 mai 1453, fin du Moyen-Âge.
Et on s'en va vers la Renaissance.
Exact. 1913, le Stravinsky, pardonnez-moi un instant, le chat m'avait envahi. Stravinsky fait la première de son ballet Le Sacre du Printemps, qui est accueilli par un public, je ne dirais pas médusé, mais qui ne sait pas comment réagir, non. Qui n'était pas prêt.
Paraît-il qu'il y avait des dames qui avaient des épingles dans leur chapeau et que certaines personnes lançaient des épingles sur la scène tellement elles étaient scandalisées, qu'elles avaient détesté ça, mais c'est devenu une œuvre majeure.
Absolument. 1914, dans un épais brouillard, et ça on en a parlé un petit peu dans les nouvelles au cours du week-end, en 1914, 29 mai, dans un épais brouillard, le cargo norvégien Storstad emboutit le paquebot Empress of Ireland qui coule en 14 minutes près de Rimouski, faisant 1012 morts.
C'est à peu près le même nombre que le Titanic?
Je n'ai pas les chiffres
non,
en
c'est
tête.
Ça. Je regardais ça.
Je n'ai pas les chiffres pour faire le comparatif, mais c'est une tragédie. On est presque dans la même période, 1914. C'est frais dans l'esprit des gens. Donc, 1012 morts en provenance, comme le nom du paquebot le disait, Empress of Ireland, donc des Irlandais, qui sont tombés. Donc, on poursuit. Mm-hmm. 29 mai 1953, en présence du premier ministre Louis Saint-Laurent, Élisabeth II est proclamée reine du Canada. 1953 toujours, le néo-zélandais Edmund Hillary et le népalais Tenzing Norgay réussissent la première ascension de l'Everest, ou du moins la première ascension recensée de l'Everest. 1990, Boris Eltsine est élu président de la Fédération de Russie. 1996, victoire du Likoud en Israël. Benjamin Netanyahou devient premier ministre. Donc, c'était en 1996, le 29 mai. Anniversaire de naissance, 1917, le président des États-Unis John Fitzgerald Kennedy, JFK. Et en 1927, un de nos hommes d'affaires les plus, on pourrait dire les plus riches, qui a bien réussi, disons, au Québec, Jean Coutu. Fondateur, bien sûr, du groupe Jean Coutu, 29 mai 1927, décès également en 2013 du docteur Henry Morgenthaler, figure de proue dans la lutte pour le droit à l'avortement libre et gratuit au Canada. Et Jules Renard, l'écrivain français, lui, s'est éteint le 29 mai 1910.
Et vous disiez que le naufrage du l'Empress Island s'est déroulé le 14 avril?
Non, le 29 mai 1914.
Ah ben oui, franchement, vous êtes des éphémérides du 29 mai. C'est moi qui suis mélangée. Le Titanic, c'est vrai, ça s'est passé dans la nuit du 14 au 15 avril. Et je lis ici que ça fait environ 1500 victimes, on ne s'entend pas. On dit entre 1490 et 1520. Alors, ça se rapproche du nombre de victimes de l'Empress Ireland et on en entend moins parler de cette dernière tragédie, celle du 29 mai.
Oui, bien, le Titanic était à la quête d'un record de vitesse. C'était le plus grand bateau et il a pris son temps avant de sombrer, tandis que l'Empress of Ireland, lui, était possiblement de taille plus modeste et a coulé comme plusieurs navires assez rapidement, donc en 14 minutes.
Merci, mon cher.
Avec plaisir.
À la une de la presse, l'administration Coderre, malmenée par le Big, l'ex-maire de Montréal et son cabinet, n'ont respecté ni l'indépendance ni l'autonomie de l'OBNL qu'ils ont fondée pour organiser la course de Formule E, tranche le bureau de l'inspecteur général Big de Montréal. Et à ce sujet, la chronique d'Yves Boisvert intitulée « Où étais-tu, Big? » 80 millions pour revigorer le secteur turco. Pause repas, angoisse au menu, ils sont terrorisés à l'idée de goûter à de nouveaux aliments, incursion dans leur univers. Art, Léane Labrèche d'Or, d'ailleurs, on la voit en photo, c'est une exclusivité de la presse, un premier film et un premier rôle. L'éditorial de François Cardinal, le maire qui se prenait pour un promoteur. Déjà choquant, le projet de la Formule E est devenu accablant hier. Mais avouons-le, rien de bien étonnant. N'est-ce pas d'ailleurs ce que les Montréalais ont sanctionné le 5 novembre dernier, ce côté autoritaire du maire Denis Coderre qui bousculait aux besoins et croyait n'avoir de compte à rendre à personne? Or, voilà précisément ce qui a mené au fiasco financier de la course de FE de 2017 à sa précipitation, à son manque de transparence et surtout au contournement des règles d'attribution de contrats, comme vient de le démontrer, preuve à l'appui, le bureau de l'inspecteur général. Soyons honnêtes, l'idée d'attirer la Formule E à Montréal n'était pas vilaine en soi, loin de là. Denis Coderre avait commencé à s'intéresser à la FE quelques semaines après son élection en 2013 en raison du virage électrique qu'il voulait imposer à la ville, mais surtout de l'incertitude entourant la Formule 1. Le maire a donc décidé d'aller à Miami, à visière levée. Il a rencontré des représentants de Formule E Operation Limited, Operations Limited, FEO. Puis, à son retour, il a appuyé sur l'accélérateur pour que le projet voie le jour en imposant son promoteur, Evenco. Un avocat a beau avoir recommandé à l'administration municipale de lancer un appel d'offres pour choisir le meilleur promoteur, elle a ignoré le conseil. Pire, le maire est intervenu personnellement auprès des autorités de la FE pour qu'elle cesse de discuter avec d'autres promoteurs intéressés, avec qui elle avait déjà entamé des pourparlers. Tout devait alors passer par son cabinet, point à la ligne. Le problème, c'est que Montréal s'est alors retrouvé avec un seul promoteur qui a finalement choisi de ne pas être promoteur. Lorsqu'Evenco a réalisé que peu importe le scénario, la FE serait largement déficitaire, il a en effet décidé de retirer ses billes. En fait, il a pris un rôle secondaire en agissant à titre de simple fournisseur de services pour le promoteur. C'est là que l'idée de créer un organisme à but non lucratif, OBNL, a germé. C'est habituellement les OBNL qui pressentent les villes, mais il est vrai que les villes mettent parfois sur pied des OBNL, à condition bien sûr d'ériger un mur de Chine avec l'organisme pour qu'il ait les coups des franges pour administrer ses affaires et choisir ses fournisseurs de services. Tout le problème du montage du maire Coderre est là. Il a mis sur pied un simulacre d'OBNL qui n'était rien de plus qu'une coquille vide qui lui permettait de tout contrôler à sa guise en raison du repli stratégique d'Evenco. C'est alors que la ville, grâce au contournement des règles, s'est finalement retrouvée à tout négocier, à gérer le volet financier de l'événement et donc à prendre tous les risques financiers d'une aventure qu'elle savait déficitaire. Imaginez, quand les subventions des gouvernements ont tardé à entrer, ce n'est ni Evenco ni l'OBNL qui a casqué. C'est la ville qui a dû se porter caution d'une marge de crédit de 10 millions. Pourquoi? Parce que le véritable promoteur de la FE, c'était en fait le maire Coderre. L'OBNL créé n'était qu'une extension de la ville de Montréal, selon l'inspecteur général. C'était un véhicule permettant au cabinet du maire de faire ce qu'il voulait, comme il le voulait, en se soustrayant à ses obligations légales, mais pas financières. Ce que Denis Coderre savait pertinemment, puisque son cabinet a été prévenu ad nauseum à chaque occasion possible, selon l'avocat conseil au dossier. Des mises en garde claires ont aussi été formulées à de nombreuses reprises par le contentieux de la ville. Mais pour Denis Coderre, manifestement, la fin était si noble qu'elle justifiait tous les moyens, même les plus douteux. Une interprétation rejetée catégoriquement par l'inspecteur général et par les électeurs montréalais. Ce qu'a écrit l'inspecteur général sur les options, une entreprise privée aurait pu, à l'aide de la création d'un OBNL, bénéficier de subventions de la ville et des gouvernements. Suivant ce modèle, le risque financier aurait été assumé totalement par l'entreprise et non par la Ville de Montréal. Les hauts dirigeants de la presse rencontrent les leaders politiques de l'Assemblée nationale aujourd'hui à Québec afin de les informer et d'affirmer la nécessité de l'adoption d'une loi qui permettrait le changement de propriété du quotidien annoncé au début du mois. À la suggestion du président de la presse, Pierre-Éliott Levasseur, les leaders parlementaires ont été conviés au Parlement aujourd'hui pour une rencontre d'information à laquelle se joindront également l'éditeur et vice-président du Conseil de la presse, Guy Crevier, et des représentants syndicaux. Rappelons que la presse passera des mains de l'entreprise Power Corporation à celle d'un organisme à but non lucratif. Pour ce faire, l'Assemblée nationale devra modifier une loi privée datant de 1967 qui empêche pour l'heure le changement de propriété. Le bilan est positif à la suite du premier jour de la mise à l'essai de navettes fluviales comme mode de transport alternatif entre le vieux Pointe aux Trembles et le vieux port. Environ 800 passagers ont embarqué à bord du bateau-mouche, selon la mairie de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe aux Trembles. Aucun retard n'a été à déplorer et les réactions des citoyens sont très positives, affirme Marie-Ève Adam, attachée politique de la mairesse Chantal Rouleau. Plusieurs personnes ont d'ailleurs réservé leur place pour les 5 jours que durera cette phase expérimentale qui prendra fin vendredi. Comme annoncé, le trajet a duré environ 30 minutes à chaque déplacement, incluant le temps d'embarquement et de débarquement. Les passagers doivent débourser 3,25 $ pour un aller simple, soit le prix d'un billet d'autobus de la Société de transport de Montréal. Une du point sur Erdogan, le président français Emmanuel Macron a jugé hier soir parfaitement inacceptable que des affiches de l'hebdomadaire Le Point, dont la une présente le président turc Erdogan comme un dictateur, soient retirées des kiosques de presse au motif qu'elles déplaisent aux ennemis de la liberté. La liberté de la presse n'a pas de prix. Sans elle, c'est la dictature, a réagi sur son compte Twitter le président de la République. L'hebdomadaire français a dénoncé dimanche une campagne de harcèlement contre son dernier numéro qui a fait l'objet de menaces dans le sud de la France. Et le président palestinien Mahmoud Abbas a quitté hier l'hôpital de Ramallah en Cisjordanie, occupé après 8 jours d'une hospitalisation qui a ranimé les suppositions sur son avenir et sur sa succession. Âgé de 83 ans, M. Abbas est sorti vers midi à pied de l'hôpital où il était soigné pour une pneumonie, selon la présidence. En apparente bonne santé pour quelqu'un venant d'obtenir son congé de l'hôpital, il s'est auparavant adressé aux journalistes pour dire son intention de retourner travailler à son bureau dès aujourd'hui.
Yes.
formation Lisbonne Telegram et la pièce Oubli, c'est une nouveauté.
À la une du Devoir, une photo, la bravoure récompensée. Mamoudou Gassama, 22 ans, a été élevé au rang de héros national après avoir sauvé samedi un enfant de 4 ans suspendu à une balustrade du 4e étage d'un immeuble à Paris. Devant les caméras à l'Élysée, le président français Emmanuel Macron a salué la bravoure de ce jeune homme malien sans statut en France et a offert de régulariser sa situation et de l'intégrer à un corps de pompiers. Formule E, rapport dévastateur du Big, l'administration Coder a agi au mépris de ses propres règles et en ignorant l'avis de ses services juridiques. Cannabis, un comité du Sénat se range du côté du Québec. Un amendement au projet de loi permettrait aux provinces d'interdire toute culture à domicile. Dramaturgie, Michel-Marc Bouchard en terre brésilienne. Tom à la ferme sera proposé au FTA, le Festival Transamérique, dans une relecture tellurique de Rodrigo Portela. On a une photo de Michel-Marc Bouchard qui salue l'audace du metteur en scène Rodrigo Portela. Culture juste pour rire en propriété partagée. Les nouveaux propriétaires de l'entreprise ont cédé la majorité des parts, 51% à Bell et à Evenco, afin de profiter de crédits d'impôt. Bilinguisme, le barreau du Québec suspendrait son recours contre l'État. Et toxicomanie, Richard Massé plaide pour l'audace en prévention. Justin Trudeau a beau tenir à ce que la légalisation de la marijuana permette la culture de la plante à domicile, un comité du Sénat se range dans le camp du Québec et du Manitoba qui s'y oppose. Les sénateurs ont amendé le projet de loi légalisant le cannabis afin de permettre aux provinces d'en interdire la culture à la maison. Au gouvernement québécois, on s'est réjoui d'apprendre que le comité sénatorial venait de lui donner raison. « Tant mieux si j'ai des alliés. Je suis extrêmement contente », a commenté la ministre responsable de la Santé publique, Lucie Charlebois. « De toute façon, c'est ce qu'on a comme avis juridique de notre côté », a-t-elle réitéré. Mais ses homologues fédéraux, eux, ne semblaient toujours pas avoir changé d'avis lundi après-midi, ce qui laisse présager qu'un affrontement entre le Sénat et la Chambre des communes se profile à l'horizon. Déclaration de revenus unique, Justin Trudeau ferme la porte. Ce n'est pas demain la veille que les contribuables rempliront une seule déclaration de revenus à acheminer à Revenu Québec. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a indiqué lundi qu'il n'avait aucune intention de négocier avec le prochain gouvernement québécois, ce qui serait à ses yeux une importante abdication de responsabilité fédérale. Sans compter qu'il estime que la province n'a pas besoin de ce pouvoir supplémentaire pour s'épanouir. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, s'est montré résigné face à la fermeture d'Ottawa. Une photo de père et de mère accompagnés de poupons, baby boom à l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville de Montréal a connu un baby boom au cours des derniers mois. Les élus de Projet Montréal, Sophie Moserolle, Pierre Lessard-Blais, Sterling Downey et Laurence Lavigne-Lalonde ont présenté lundi leur dernier né à l'occasion de l'Assemblée du conseil municipal. Trois des bébés ont même assisté, plus ou moins brièvement, au débat dans la salle du conseil. Depuis 2016, les élus municipaux au Québec ont, et il n'y a plus de phrases. Alors, ils ont, j'imagine, une invitation à présenter leurs poupons. Le gouvernement libéral a donné son feu vert lundi au prolongement de la promenade de Samuel de Champlain vers l'Est, un projet de 160 millions qui devrait prendre forme entre 2019 et 2021. La nouvelle portion de la promenade longera le fleuve entre la côte de Sillery et la côte Gilmore sur une distance de 2,5 km. Elle prévoit l'aménagement d'une plage urbaine, de bassins de baignade et d'un miroir d'eau, ce qui nécessitera le déplacement de la voie ferrée et du boulevard Champlain dans ce secteur. Évaluée à 100 millions en 2012, la troisième phase de la promenade devait à l'origine se concrétiser en 2017. République démocratique du Congo, éclosion du virus Ebola, la vaccination commence à Bikoro. Les autorités de la santé publique en République démocratique du Congo ont entrepris lundi de vacciner les travailleurs de la santé et d'autres intervenants à Bikoro, où une épidémie de virus Ebola s'est déclarée au début du mois de mai. Au moins 5 des 12 décès attribués à cette plus récente éclosion de la fièvre hémorragique au Congo se sont produits à Bikoro. Lundi, le Congo a confirmé environ 56 cas de fièvre hémorragique, 35 cas confirmés d'Ebola, 13 cas probables et 8 cas suspects. En raison des inquiétudes suscitées par la propagation du virus, plusieurs écoles de la zone de santé d'Iboko, environ 180 km du sud-est de Mbandaka, ont été fermées selon des informations de Radio Okapi, qui est soutenue par les Nations Unies. C'est la 9e épidémie d'Ebola au Congo depuis 1976, lorsque la fièvre hémorragique a été identifiée pour la première fois. La Banque de Montréal et Simply Financial tentent de comprendre toute l'étendue de ce qui s'est passé dimanche au moment où chacune des deux institutions a appris que des fraudeurs avaient peut-être mis la main sur les renseignements personnels de certains clients. Coup sur coup, la Banque de Montréal et Simply, banque virtuelle de la CIBC, ont diffusé des communiqués lundi avisant leurs clients de surveiller leurs comptes. Simply a estimé que 40 000 clients sont potentiellement touchés, tandis que la Banque de Montréal, moins de 50 000 clients ont été touchés, a indiqué une porte-parole en fin de journée. Le dimanche 27 mai, des fraudeurs ont communiqué avec BMO, alléguant être en possession de certains renseignements personnels et financiers concernant un petit nombre de clients. « Nous croyons que cette attaque a été menée de l'extérieur du pays », a écrit la Banque de Montréal en matinée. Nous avons pris les mesures nécessaires dès que l'incident est survenu et nous sommes persuadés d'avoir réussi à écarter les risques relevés menaçant les comptes des clients visés. Nous conseillons à nos clients de surveiller leurs comptes et d'aviser BMO de toute activité suspecte, a ajouté la banque en mentionnant un travail étroit avec les autorités compétentes. Et au moment où Airbus met la touche finale à la prise de contrôle du programme C-Series, Bombardier a annoncé lundi qu'Air Baltic lui achètera 30 appareils dans le cadre d'une commande dont le prix au catalogue est estimé à 2,9 milliards. L'entente, qui prévoit une option pour 30 avions supplémentaires, constitue la plus importante commande du programme depuis l'été 2016, quand Air Canada a annoncé l'achat de 45 appareils avec une possibilité de 30 autres. Vous écoutez le quotidien des quotidiens, c'est Hélène Denis qui vous accompagne. À venir, une chanson et puis la revue de presse du Journal de Montréal. Restez avec nous. Morning, evening, just could not believe.
Selon Émilie Côté de La Presse, c'est le secret funk le mieux gardé en ville, la formation The Brooks et la pièce Priceless.
À la une du Journal de Montréal, fiasco de la formule électrique. Selon l'inspecteur général Denis Galland, l'administration Coderre a contourné les règles d'octroi de contrat prévues par la loi. Alors, on a deux photos, une de Jacques Aubé, ex-VP d'Evenco, et une autre de Denis Coderre, ex-maire de Montréal. Finale de la Coupe Stanley, la première aux Golden Knights. On parle ici de la première victoire. Les Hells Angels ressuscitent un club de millionnaires. Simon, Québec vole au secours de Simons. Crime organisé, les Hells Angels relancent le chapitre de Sherbrooke. La riche section aurait notamment déjà enfoui 40 millions en estrie. Les Hells Angels viennent de ressusciter leur club des millionnaires à Sherbrooke, dont les affaires étaient paralysées depuis l'opération Shark de 2009. La réouverture du chapitre des Hells de Sherbrooke s'est officialisée samedi en Beauce lors d'un rassemblement où certains de ses membres ont affiché leurs couleurs, a appris le Journal de Montréal. Ottawa dépense 6 milliards de dollars sans plan. Le nouveau grand patron de l'informatique est très critique envers Ottawa. Quand je suis arrivée en poste, j'ai demandé où on dépensait notre argent. Personne ne pouvait me produire un rapport, déplore le patron de l'informatique au fédéral, Alex Benet. Monsieur Benet, un Québécois de 37 ans, pilote depuis un an le virage numérique du fédéral. Une lourde tâche puisque le Canada a accumulé un grand retard. Depuis son arrivée, le fédéral a une meilleure idée de la façon dont il dépense son argent, mais le portrait n'est toujours pas complet. On doit être à environ 80 % dit-il enthousiaste. Le fédéral doit, selon M. Benet, mieux recruter ses informations, changer la façon dont il octroie ses contrats et moderniser ses lois et innover. Vers un meilleur suivi des recommandations au MTQ, le ministre des Transports André Fortin entend créer une unité spécialement dédiée aux recommandations du coroner, reconnaissant le manque de suivi à cet égard au sein de son ministère. Le journal a publié au cours des trois derniers jours les résultats d'une vaste enquête ayant permis de découvrir que moins de la moitié des recommandations émises par les coronaires depuis 2012 avaient été appliquées. Transport Québec, l'un des ministères les plus ciblés par les coronaires, faisait piètre figure en la matière. Il n'y a pas de mécanique claire pour le suivi, a concédé hier le ministre Fortin. Ce n'est pas normal qu'une recommandation n'ait aucun suivi ou demeure lettre morte. Face à la situation, un vrai bureau de suivi sera créé à l'intérieur de Transport Québec afin de mieux faire cheminer les propositions des coronaires. Ces recommandations sont faites de bonne foi dans l'intérêt de la sécurité et du public. Je pense qu'on doit y donner tout le suivi approprié et nécessaire, avance le ministre Fortin, assurant que cette initiative sera mise en place rapidement. Il a aussi été décidé que deux rencontres par année se tiendraient entre la coroner en chef et le sous-ministre afin de s'assurer que chacune des recommandations fait l'objet d'un suivi serré. Le prix des vins grimpe pour la deuxième fois en 7 mois. Les augmentations vont toucher plus de 1 200 produits vendus à la SAQ ou la SAQ. La Société d'État évoque une hausse moyenne de 20 cents par bouteille pour les produits les plus populaires, a précisé un porte-parole de la SAQ, Mathieu Gaudreau. Selon la SAQ, des demandes de hausse de prix ont été présentées par ses fournisseurs et elles ont été acceptées dans la plupart des cas. Parmi les raisons invoquées, on note la variation du taux de change avec l'euro et le dollar américain, ainsi que l'augmentation du taux fédéral de droit d'accise. Ce taux est passé de 63 cents à de 0,639 le litre le 1er avril. Alors, je vous lis ce qui est écrit dans le journal. La SAQ indique que les occasions pour les hausses de prix de la part de ses fournisseurs sont désormais réduites à 2 fois par année, au printemps et à l'automne. Une adolescente de 17 ans a été portée disparue hier, près d'une semaine après avoir été vue pour la dernière fois à Laval. Allison Bruce a quitté son domicile familial le 20 mai en prétendant qu'elle se rendait chez des amis, mais elle n'est jamais rentrée chez elle. La famille d'Allison Bruce craint pour sa sécurité puisque la jeune femme aurait de mauvaises fréquentations. Elle mesure 1,60 m, 5 pieds 3 pouces, pèse 52 kg, 115 livres et a les cheveux bruns, les yeux bleus et elle a aussi un tatouage d'étoile sur le poignet droit. Quiconque l'aperçoit peut communiquer avec les autorités via le 450-662-INFO ou 4636-450-662-INFO. Deux journalistes sont morts en Caroline du Nord hier après-midi à cause de la tempête Alberto lorsqu'un arbre s'est écrasé sur leur voiture alors qu'ils étaient sur l'autoroute. Le journaliste Mike McCormick et le photographe Aaron Smilzer de la station WYFF News 4 circulaient sur l'autoroute 176 tout près de la frontière avec la Caroline du Sud lorsque le tronc d'environ 1 mètre de diamètre est tombé sur leur véhicule. Les deux hommes avaient 36 ans. Tout juste avant leur mort, ils avaient réalisé une entrevue avec un chef pompier local par rapport à la violente pluie qui s'abattait dans la région.
Je porte des fausses têtes comme pyjama, des trous de mémoire comme galoche, un jeu d'échecs comme pantalon, le cœur de travers dans ma poche de veston. Une voix sort de mes semelles et m'arrache les talons. Tu étais le voyage, moi le vent. Aussi en bord d'une falaise norvégienne, nous avons perdu la tramontane, étouffée dans la fumée de nos gitanes. J'ai replié mes blessures dans la tapisserie de ma vie et j'ai repris mon chemin. Ton odeur dans le berceau de mes os. Je porte des post-it comme pyjama, des trous de mémoire comme galoche, un jeu d'échecs comme pantalon, le cœur de travers dans ma poche de veston.
Tiré de son album « Je deviens le loup », c'était la chanteuse albertaine Ariane Maric Lemire et la pièce « Post-it ».
La chronique de Patrick Duquette dans le droit pour amorcer ses journaux régionaux, les lectures des journaux régionaux, le petit boubouillot. Moi, j'ai un faible pour le petit Philippin. Il a dû monter sur un tabouret pour atteindre le micro. Sa voix aussi était minuscule, une petite voix flûtée et musicale. Lorsqu'il parlait, on avait l'impression qu'il chantait. Bref, il a récité son histoire dans son dialecte tagalog. Je n'y ai strictement rien compris, sauf un mot, « boubouillot », qui revenait à toutes les deux phrases. Je l'ai consciencieusement noté dans mon calepin. Quand le petit Philippin a eu terminé, il est descendu de son tabouret sous les applaudissements. Pas intimidé pour un sou. Si petit, mais quel aplomb! Pourtant, il y avait du monde comme rarement un lundi matin au café Le Troquet. La place était pleine. Le maire de Gatineau, la députée de Hall, des élus municipaux et scolaires, des gens d'affaires, des parents, des élèves, tous s'étaient réunis pour un vernissage hors de l'ordinaire. Une exposition de photos réalisée par les enfants des classes d'accueil de l'école primaire Notre-Dame. L'école Notre-Dame a une réputation, comme on dit. Justement, n'écoutez pas tout ce qu'on raconte. Il s'y passe de belles choses. Notamment ce projet monté en collaboration avec des chercheuses de l'UQO. On est parti de l'hypothèse que les jeunes des classes d'accueil s'intégreraient plus vite et apprendraient plus vite le français en les sortant de la salle de classe. C'est ce qu'on a fait. Les profs ont organisé des classes promenades dans le quartier. Ils ont fait le tour des commerces de la rue Eddy avec les enfants. Sont allés cueillir des carottes à la ferme Moore, ont visité les mosaïcultures. Les jeunes n'ont pas eu le choix. Ils ont dû se débrouiller avec leur français approximatif pour interagir, poser des questions, partager leurs découvertes. L'apprentissage de la langue doit se vivre. Elle ne s'apprend pas par cœur, m'a expliqué Marisa Nadeau, l'une des trois enseignantes de Notre-Dame qui a participé au projet. On avait demandé aux jeunes de prendre des photos de ce qui les intéressait ou leur rappelait leur pays. De retour en classe, les profs sont partis des clichés pour développer des leçons sur mesure en maths ou en français. La chercheuse de l'UQO, Geneviève Lessard, appelle ça l'apprentissage par induction. Marisa Nadeau résume les choses ainsi. Comme on parle de ce que l'élève connaît, de ce qui pique sa curiosité et de ce qu'il veut savoir, les apprentissages collaient beaucoup mieux. À partir des clichés qu'ils ont pris dans les rues de Gatineau, les jeunes ont composé des histoires dans leur langue maternelle. C'était ça, le vernissage au Troquet. On avait affiché leurs photos au mur. À tour de rôle, les enfants récitaient leur histoire. Après le petit Philippin, Gustavo, le Colombien, a raconté la sienne d'une voix chantante. Puis l'Azéri, en roulant les R de son russe. Il y a eu la Syrienne, les deux Congolais, la Chinoise qui s'est exécutée en mandarin, ou était-ce en cantonais? Personne n'aurait su le dire. C'est sans importance. Même si on ne comprenait pas un mot, il restait la musicalité propre à chaque langue. Il restait l'intonation qui trahissait les passages plus joyeux ou plus dramatiques. Il restait des enfants qui vivaient un moment de gloire alors qu'ils partageaient leur langue avec la société d'accueil. Quand tout le monde a eu fini, le petit Philippin est passé à toute vitesse devant moi. Je l'ai accroché par l'épaule. « Dis-moi, jeune homme, je suis journaliste et j'ai écouté ton histoire. Ça veut dire quoi, boubouillot? » Il m'a regardé avec de gros yeux. Les mêmes yeux peu amènes que Doug Forbes fait aux journalistes qui veulent l'interroger. Mais il a vite compris qu'il ne pourrait se débarrasser de moi si facilement. « Abeille » a-t-il lâché avant de s'échapper pour rejoindre ses copains. Je l'ai regardé partir. « Abeille ? » Et elle faisait quoi, ton abeille? Elle chantait en tagalog? Elle dardait les journalistes? Je ne le saurais jamais, hein? Je t'aime pareil, mon petit boubouillot. Dans le soleil, Yann Bussière, la méthode montréalaise pour gérer le passage des piétons et des cyclistes aux intersections sera comparée à celle de Québec dans une étude menée par l'Université Laval et l'Institut national de recherche scientifique commandé par l'organisme Accès Transport Viable. La ministre déléguée au transport, Véronique Tremblay, a annoncé lundi une aide de 132 370 $ du Fonds de la sécurité routière pour réaliser cette étude. Celle-ci fait partie de 10 projets de la capitale nationale auxquels le fonds a contribué pour 1,2 million de dollars. Nous voulons toujours travailler en amont et il y a longtemps qu'on veut s'attaquer à cette question car les intersections sont les endroits où il y a le plus d'accidents, a expliqué en point de presse Étienne Grandmont, directeur général d'Accès Transport Viable. Celui-ci rappelle que la métropole et la capitale proposent deux façons bien différentes de gérer le passage des piétons et cyclistes. À Québec, il y a les feux avec boutons d'appel, alors qu'à Montréal, le système est différent. Il y a aussi le virage à droite sur feu rouge qui est interdit à Montréal, mais est permis à Québec. En plus d'analyser l'impact de ces mesures, l'étude sondera aussi les automobilistes, les piétons et les cyclistes afin de mesurer à quel point ceux-ci se sentent en sécurité dans l'environnement de Québec et celui de Montréal. Dans le quotidien, Dominique Gobeil, depuis 18 ans, la ferme et atelier boutique Le Chevrier du Nord allie la modernité d'une entreprise en développement et le savoir-faire séculaire des éleveurs et des tisserands sur les terres familiales du rang Saint-Joseph à Saint-Fulgence. Le public était invité à les découvrir dimanche et le quotidien a pu avoir un aperçu du travail de ces artisans. Alors, le titre de l'article, Le Chevrier du Nord, de la chèvre au chapeau. D'abord, les visiteurs peuvent admirer la cinquantaine de chèvres angora, ces bêtes dont la laine produit la douce et résistante fibre mohair. Comme la tonte a eu lieu il y a peu, les animaux n'avaient pas encore retrouvé leur allure frisée. On retrouve également une brebis islandaise et deux chevaux, dont un curly. Son poil peut aussi être filé et est hypoallergène. Le Chevrier du Nord a d'ailleurs développé un service pour les propriétaires d'animaux de compagnie. S'ils apportent au moins une livre des poils de leur chien, de leur chat ou de leur lapin, les artisans pourront en faire du fil ou du feutre. Dans une grange, on trouve l'économusée de la lainerie et l'atelier où la fibre est transformée. Les toisons sont triées, lavées, séchées, préparées au loup batteur, cardées, filées et teintes. Toutes des étapes où la minutie de la filandière et artiste Lise Pilote se dévoile. « Ce n'est pas un métier, c'est une passion », conclut une visiteuse impressionnée. « On comprend mieux la valeur des vêtements artisanaux », dit une autre devant les manteaux, les bottes, les tuques et les autres accessoires confectionnés sur place. Designer, Annie Pilote conçoit des chapeaux qui feraient pâlir d'envie la reine d'Angleterre, pour ne nommer que ses objets de collection. Les deux sœurs utilisent la technique de teinture écologique et celle naturelle. Par exemple, les gaillardes donnent une couleur orangée et les pelures d'oignon créent un beau jaune ocre. Leur frère Régis n'est pas en reste. Agronome de formation, c'est lui qui s'occupe du troupeau et de la génétique des chèvres. nos parents ont acheté les terres dans les années 60. En 2000, on a voulu revaloriser la ferme qui était alors inactive. On a marié nos talents, explique Annie Pilote. Son père, Camille, toujours très actif, est pour elle un modèle. Quand on est arrivé ici, on passait à travers les murs. On a tout refait, témoigne le paternel. Bien que le mode de vie de la famille semble bien bucolique, il est aussi très exigeant. « Je n'ai pas de congé, à moins de m'obliger à en prendre », admet Annie Pilote. Elle est aussi mère d'une fille de 8 ans qui manifeste déjà un intérêt pour la relève de l'entreprise familiale. La designer a développé des partenariats avec d'autres artisans de la région. Par exemple, elle a créé des sacs à main magnifiques avec un maroquinier. Une partie du mohair est envoyée à des tisserands spécialisés qui fabriquent de l'étoffe du pays. Le tissu typiquement canadien est ensuite renvoyé aux chevriers du Nord pour composer des vêtements. Ils font ça depuis des générations aussi bien en profiter, indique Annie Pilote. L'événement Porte ouverte avait lieu en même temps que les Journées de la nature. Nous sommes une entreprise émergente, mais nous combinons ça à un métier ancestral. Des gens nous découvrent encore après 18 ans, conclut la designer. Dans le Nouvelliste, mission accomplie pour Patrick Charlebois. C'est Mathieu Lamotte qui signe le texte. C'est fait, Patrick Charlebois a relevé le défi qu'il s'était lancé et a couru 10 marathons en 10 jours dans les 10 provinces canadiennes. Le coureur de Trois-Rivières a parcouru les derniers 42,2 km de son périple sportif pan-canadien lundi à Vancouver. Il a complété la dernière étape de son Canadian Marathon Challenge en 3h13 minutes et 11 secondes. Ce temps est un peu plus lent que ceux des deux marathons précédents car il a dû adapter son rythme à celui du frère de Terry Fox, Darrell Fox, qui a couru les 10 derniers kilomètres en sa compagnie. Après avoir réussi à courir sous la barre des 3 heures à Regina et à Calgary, celui qui désirait compléter ce tour de force athlétique afin de promouvoir la fondation Terry Fox avoue avoir volontairement levé le pied pour la dernière étape qui s'est déroulée dans le parc Stanley. Un véritable paradis des coureurs, selon lui. Il voulait savourer pleinement les derniers instants de son aventure. « On a mangé un éléphant, une bouchée à la fois, mais aujourd'hui, lundi, c'était le dessert, on s'est payé la traite. » Et pour terminer, Expo Vérité sur le gaspillage alimentaire, c'est dans la tribune Steve Bergeron. Michel Caron aime photographier le quotidien, parfois le sien, mais surtout celui des autres. Ce n'est pas le spectaculaire qui l'attire, mais le vrai. Raison pour laquelle il préfère le noir et blanc, selon lui, la meilleure technique photographique pour faire place, pour faire parler les sentiments et laisser une place à l'interprétation pour le spectateur. De l'exposition qu'il présentera jusqu'au 30 juin à la Galerie d'art du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, on pourrait dire qu'elle sera dans le vrai de vrai. Le photographe a croqué en pleine action des déchétariens sherbrookois, ces personnes qui visitent les bennes à ordures, des épiceries et supermarchés le plus souvent à la nuit tombée, pour y récupérer des aliments encore comestibles destinés à leur propre alimentation, mais aussi pour sensibiliser la population au gaspillage de nourriture. J'ai découvert cette réalité il y a 5 ou 6 ans par mon fils aîné qui habitait alors près du marché Jean Talon à Montréal.